sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et je salue encore son président directeur général, Donald Olivier. Bonjour, Donald.
Bonjour, Marc.
Déjà notre 30e émission. Qui l'aurait cru?
Oui, je l'aurais pas cru, mais on est rendu là.
Ben, ça va bien. On a beaucoup de sujets encore aujourd'hui à aborder. Mais avant, on invite les gens, évidemment, à nous transmettre leurs questions. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, auditrices. Il suffit tout simplement d'aller sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Et cliquez sur poser vos questions ou sinon par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Profitez de la présence hebdomadaire de Donald pour poser vos questions. Donc, on vous invite à le faire. Avant d'aller avec notre sujet du jour, Donald, on aime bien revenir sur l'actualité. On s'était laissé lors de la dernière émission, on a parlé, bon, est-ce qu'on va voter? On s'en va voter? Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça s'en vient? Bien, l'élection a eu lieu. Je voulais voir un petit peu avec toi. Bon, on est quand même encore dans le comté de Bécancour, Nicolette Sorel, Alnombac, la réélection de Louis Plamondon.
Oui, 13e mandat pour M. Plamondon, donc vraiment établi depuis les années 80, donc il est encore en selle, donc on peut le féliciter, là, donc c'est quand même un exploit.
Oui, un exploit, puis on voit que les gens apprécient sa présence dans différents événements aux quatre coins du comté, qui est assez grand d'ailleurs. Donc,
oui, c'est un très grand comté à couvrir, puis on le voit fréquemment dans les activités.
Là. Donc, aussi, dans l'actualité, une grève générale illimitée des ingénieurs. Puis là, bon, quand on entend ça, on dit, bon, des ingénieurs, des travaux, chantiers, planification, devis, bon, beaucoup d'actions dans le parc industriel. Alors, le questionnement... légitime. Est-ce que cette grève des ingénieurs aura un impact quelconque sur ce qui se passe dans le parc au niveau des travaux?
Les ingénieurs du gouvernement, c'est différent des ingénieurs qui relèvent des sociétés d'État. Donc, c'est pas la même association syndicale. Donc, il n'y a pas d'impact. Et donc, les ingénieurs du gouvernement ont leur propre association. À la Société du parc, c'est différent. Donc, pour nos travaux à nous, évidemment, ça ne change rien. Tout va aller de l'avant. Évidemment, peut-être que le gouvernement peut avoir des enjeux sur ses chantiers à lui, qui lui sont propres, mais il n'y aura pas d'influence sur nos chantiers en cours. Puis c'est sûr que nos chantiers les plus importants de route et tout ça, c'est déjà terminé. Ça fait que donc, ce serait le reste, mais il n'y aura pas d'impact.
Bonne nouvelle. Donc, aussi, peut-être avant d'aller avec notre sujet du jour, j'aimerais que tu me parles de la fondation de l'école secondaire, les Seigneuries, quand même une implication assez directe de ta part.
Oui, c'est ça. La conférence de presse a eu lieu le 1er mai, donc c'est pour ça qu'on parle de la revue de l'actualité. Mm-hmm. Il y a eu quand même une bonne couverture médiatique. Fait que oui, j'ai parti à un groupe de travail parce qu'il y avait quand même des besoins importants dans la portion est de la MRC, la portion du territoire desservie par l'école secondaire Les Seigneuries. Et puis, indice de défavorisation quand même assez élevé pour certains milieux. Et puis, tout ça a fait en sorte qu'on s'est convaincu qu'il fallait partir d'une fondation. Et il y a aussi les retrouvailles, les 50 ans de l'école qui vont être célébrés le 24 mai. Donc, c'est clair que démarrer une fondation, ben, il y avait comme un timing intéressant pour tenter de créer une mobilisation autour d'une cause comme ça. Parce que, évidemment, il n'y a pas de cause plus noble que celle que de soutenir des jeunes. Hein. Et dans le fond, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment axer nos axes d'intervention vers la persévérance. Donc, non pas qu'on veut pas reconnaître la performance, mais souvent la performance, les jeunes sont déjà dans des milieux intéressants pour performer. Ça fait que, donc, on veut vraiment avoir un axe persévérance scolaire et puis soutenir les jeunes. Tu sais que les jeunes, c'est bien beau de dire, OK, ayez des aspirations, mais on veut tenter de faire une différence pour qu'ils aient les moyens d'atteindre leurs aspirations. Ça fait que, donc, on ne sait pas quel impact on aura, mais assurément, on va faire mieux que s'il n'y avait pas de fondation.
En tout cas, bravo pour ton implication personnelle dans cette belle initiative.
Bien, merci. Écoute, moi, j'ai été à cette école-là. Mes enfants ont été à cette école-là aussi. Puis je pense qu'une école en santé, c'est bon pour un milieu de vie. Donc, on va tenter de la garder le plus en santé possible.
Super. Donald, avant d'y aller avec notre sujet du jour, parce qu'on va découvrir les entreprises de services tantôt, on voulait profiter de cette émission-là. je pense que c'est important de le faire, de parler des incitatifs gouvernementaux qui sont offerts aux entreprises de la filière batterie. Bon, souvent, lorsqu'on parle de subventions, on a l'impression que les gouvernements ou le gouvernement injecte des ou engloutit des milliards, puis là, etc. Puis, bon, ça a souvent mauvaise presse. Bon, ce qui se passe dans ce domaine-là, cet aspect financier de la chose, peux-tu nous parler davantage des incitatifs gouvernementaux qui sont offerts aux entreprises de la filière batterie?
Ben oui, parce que, tu sais, il y a beaucoup de, parfois, des gens qui se posent ces questions-là, des fois, des trucs qui se disent gauche à droite. Je pense que c'est important de y aller puis de carrément clarifier qu'est-ce qu'il y en est projet par projet. Mm-hmm. Et puis, si je commence à plus haut niveau, bon, c'est certains auditeurs l'ont peut-être entendu, mais on amenait l'idée, on amenait les données factuelles qu'il y avait 850 millions de retombées économiques régionales à la fin de l'année et puis à peu près 2,5 milliards de retombées économiques provinciales. Fait que 850 millions régions, 2,5 provinciales. Fait que je vais dévoiler tout de suite le punch, puis après ça, on va l'expliquer. C'est qu'en date de la fin de l'année, 31 mars, il y avait pour 120 millions de déboursés par le gouvernement en prêt. Donc, 850 millions, 2,5 milliards de retombées, mais ce que le gouvernement a déboursé à date, c'est 120 millions en prêt. Donc, je n'ai pas dit subvention parce que ce n'est pas des subventions, donc en prêt. Donc, c'est le taux de situation. Fait que je vais avec le punch, mais je vais décortiquer graduellement.
Donc, vraiment, là, cette portion est quand même comparée aux retombées, comparée à... Donc, c'est pas aussi significatif. C'est important, mais quand même, c'est pas des milliards là, qui sont engloutis là, dans la filière batterie.
C'est parce que les gens, mettons, puis je suis pas en train de dire que c'est pas correct ce qui circule, mais les gens ont entendu beaucoup pour parler des modèles de Northvolt et de Lion Électrique. Mm-hmm. Mais ce qui se passe à Bécancour, chaque projet est différent. Fait que, si je commence par le premier sur ma liste, Nemaska Lithium. Donc, Nemaska Lithium, c'est propriété 50% Investissement Québec. Et 50 % Rio Tinto. Donc, le gouvernement, ce qu'ils ont fait, ils ont injecté en équité. Donc, équité, c'est comme, bon, tu achètes des actions, tu es propriétaire de l'entreprise, et puis environ 500 millions de déboursés. Mais ce n'est pas une subvention, ce n'est pas un prêt, c'est que tu es propriétaire de l'entreprise. Mm-hmm. C'est un investisseur qui achète des participations dans une entreprise. Fait que donc, c'est pas un prêt, c'est pas une subvention, c'est que, bon, moi puis toi, moi, j'aurais pas les reins assez solides.
Non plus.
Injecter ces sommes-là. Mais un investisseur privé comme Investissement Québec ou autre peut faire ça. Fait que donc, c'est carrément, tu as une participation dans une entreprise qui a une valeur et puis un jour, tu pourras revendre. Et puis, ce qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années, c'est que, bon, un projet comme ça, tu sais, de Nemaska Lithium avec la mine et l'usine, on parle de quelques milliards. Mm-hmm. Fait que donc, c'est sûr que dans les autres rondes de financement, parce qu'il faut débourser au fur et à mesure que le projet avance, bien, Investissement Québec, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais pour avoir le choix de excusez le terme, là, mais d'accoter, donc s'il faut sortir un milliard, bien, OK, Rio Tinto en met 500 millions, puis Investissement Québec en remet 500 millions, vous pourrez décider de ne pas réinjecter et de laisser la part à l'autre, mais ce que ça fait, c'est qu'il se dilue tranquillement. Donc, il ne maintiendra pas son 50 %. Fait, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Très bonne question, je ne le sais pas, mais c'est vraiment en équité que c'est investi. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas une subvention chez les mascolités.
D'accord. D'autres exemples?
Oui, puis Air Liquide. Donc, Air Liquide, c'est un projet de quelques centaines de millions de dollars, là, 200 millions. Et puis, donc, il n'y a pas de prêt qui est impliqué. Puis, la seule subvention qui est impliquée, c'est un programme du ministère de l'Environnement que toutes les entreprises du Québec peuvent bénéficier. Donc, c'est de l'ordre de 3 millions, c'est public.
Pas rien de particulier à Air Liquide.
Non, pas rien de particulier à filière batterie. Fait, donc, ça. Air Liquide, se sont pointés sur ce programme-là, un programme du ministère de l'Environnement, donc éco-performance. Et puis, donc, ils sont allés chercher un 3 millions, c'est public, c'est sur leur site. Mm-hmm. Fait, donc, 3 millions de subventions sur un projet de l'ordre de 200-220 millions. Fait, donc, moi, je mène ça sous l'angle factuel. Donc, il n'y a pas d'autre incitatif autre que celui-là.
On voit l'ordre de grandeur de la chose.
Oui, c'est ça. Et puis, par la suite, on tombe à Matériaux Avancés Mireille. Donc, eux, c'est entreprise à filière batterie. Donc, eux, ce qu'ils ont, c'est le... Bon, les auditeurs ne connaissent peut-être pas le nom du programme, mais le programme Essor d'Investissement Québec, oui. C'est un programme qui existe pour l'ensemble des entreprises du Québec. Donc, ce n'est pas un programme axé filière batterie. C'est en général pour favoriser les retombées économiques ou le développement économique. Ce programme-là est là pour supporter. Et puis, ce qu'ils ont eu, c'est un prêt de 7,5 millions. Donc, je n'ai pas nommé le mot subvention. Fait que c'est un prêt de 7,5 millions qu'ils ont obtenu pour leur projet à Bécancourt qui est de l'ordre de 70 millions. Fait donc, un prêt. Et puis, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de déboursé encore de fait. Dans moi, le décompte que j'ai eu, il n'y avait pas de déboursé encore de fait. Fait qu'évidemment, les gens qui passent voient le projet de Mireille avancer. Et puis, il y a une subvention, il y a un soutien, il y a un prêt de l'ordre de 7,5 millions pour ce projet-là via un programme qui existe déjà, qui n'est pas dédié à Philadelphie.
Est-ce qu'on a d'autres exemples?
Oui, bien les autres, les deux autres, EcoPro, BM et puis UltiumCam, il y a une similitude. Là, dans le fond, il y a une participation provinciale et fédérale. Fait que donc, le gouvernement du Québec injecte, le gouvernement fédéral injecte aussi. Et donc, si j'y vais, mettons, EcoPro, BM, c'est des prêts, puis je vous dis ce qui est public, là. Je ne suis pas en train de dévoiler de l'info
confidentielle
aujourd'hui. Ben, c'est que les gens, peut-être pas, ce ne serait pas mon rôle. Hein,
non.
Donc, c'est des prêts à partie pardonnable. Fait que donc, c'est le Québec amène 322 millions en prêts. Et puis, le fédéral aussi, 322 millions. Et puis, du côté québécois, il y a 194 millions qui pourraient être pardonnables. Donc, quand je dis « pourraient être pardonnables », c'est que les contrats, ce n'est pas avec la CPIB. Fait que moi, je n'ai pas accès à ce détail-là. Mm-hmm. Mais en fonction de certaines conditions, les prêts pourraient être pardonnables. Fait que donc, oui, ça pourrait se transformer. Un prêt pardonnable, c'est des sommes que le gouvernement ne retrouve pas. Fait que donc, retenons 322 millions fédérales, 322 millions provinciales et puis 194 millions provinciales qui pourraient être pardonnables. Mm-hmm. Donc, encore là, mettons, très peu de déboursés aujourd'hui. Et puis, si on va sur UltiumCam, les chiffres, c'est 151,9 millions du provincial et 147,7 du fédéral. Et il y a 134 millions de pardonnables qui, en fonction des conditions, qui seraient pardonnables éventuellement. Et donc, je reviens avec le punch du début. Là, puis désolé pour les auditeurs, j'ai lancé beaucoup de chiffres. Si vous allez, lors des annonces, vous allez les revues de presse des annonces, vous allez avoir accès à ces chiffres-là. Mais c'est vraiment, à date, 120 millions de prêts qui ont été déboursés à ce jour pour des retombées économiques de 850 millions dans la région et 2,5 milliards au Québec. Moi, je jugeais important que les gens, parce que parfois j'entends il y a des milliards en subventions qui s'en viennent, qui sont sur la rive sud. Ben, c'est comme, mettons, faut amener les faits et puis, bon, il y aura peut-être d'autres décrets, d'autres projets pour amener des approches différentes. Mais aujourd'hui, les cinq projets actifs, je vous ai livré le détail.
Je pense que ça valait la peine de remettre les pendules à l'heure parce qu'effectivement, quand on regarde la part gouvernementale, sous forme souvent de prêts, entre autres, et aussi, bon, l'impact, les retombées économiques, création d'emplois, tout ce qui se brasse, tout ce qui se passe. Donc, je pense que ça valait la peine, Donald, de prendre le temps aujourd'hui de faire le point là-dessus pour démystifier tout ça.
Oui, voyons ça comme un peu un rappel, parce que souvent, lors des annonces, on focus sur autre chose que ces chiffres-là. Et puis, c'est clair que les projets de Nordvolt et de Lyon ont un peu amené le discours qu'il pourrait y avoir... une situation défavorable, mais je pense que ce qui arrive avec Bécancourt, ça a quand même pas mal de sens.
Super. Donc, après la pause, on va continuer notre tournée du parc industriel qu'on avait commencé la semaine passée, mais on va se focusser sur les entreprises de services. Et donc, on vous invite à nous communiquer vos questions en allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur poser vos questions. Sinon, par texto, par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
De retour donc avec notre invité hebdomadaire Donald Olivier de la Société du Parc industriel. Et tout juste avant la pause, depuis le début de l'émission, on a eu l'occasion, chers auditeurs et auditrices, de parler des incitatifs gouvernementaux offerts aux entreprises de la filière batterie. Et si vous voulez réécouter le tout, n'hésitez pas à le faire parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de chiffres, là, mais ça valait la peine de d'énumérer tout ça. Puis... Donc, on vous invite à réécouter le tout sur via.fm. Donc, Donald, on voulait quand même continuer notre petite promenade dans le parc. On avait commencé la semaine passée pour découvrir différentes entreprises. On voulait, cette semaine, vraiment cibler les entreprises de services. Et on pourrait commencer avec André Bouvet dans le parc.
Oui, les entreprises de services, il y en a quand même beaucoup. Et puis, évidemment, ces entreprises-là peuvent desservir les entreprises du parc comme peuvent desservir d'autres entreprises qui ne sont pas nécessairement reliées, mais sont quand même établies. Fait qu'effectivement, André Bouvet, une entreprise quand même bien connue, c'est plus un point de service qu'ils ont dans le parc parce que leur bureau est davantage au pied du pont. mais ils ont un bâtiment puis un point de service pour desservir les entreprises du parc sur la route qui mène au quai.
Donc, BMI 2000 aussi,
oui.
Dans le parc.
Oui, oui, sur Jean de Mers, celle-là. Donc, ils sont là, une fondation 2000. Donc, vraiment vers plaque d'acier sur mesure, du soudage, usinage, coupage, peinture, sablage de sable et tout ça. Ça fait que, donc, c'est une entreprise qui peut faire des travaux de mécanique pour des entreprises du parc, mais aussi, évidemment, pour une clientèle très, très, très variée.
La prochaine, c'est Castaloupe, si je le prononce comme il faut, logistique.
Oui, oui. Donc, ça, c'est un arrimeur. C'est pour de l'arrimage au port. Donc, ils sont présents beaucoup dans d'autres ports. Ils ont comme des activités plus modestes au port de Bécancour, mais c'est quand même un joueur important du domaine maritime qui a un pied à terre aussi et qui fait quand même des activités d'arrimage au port de Bécancour.
Une entreprise peut-être plus connue là, pour certains intervenants, la construction Lavigne et Barry, CIDB.
Oui, oui, donc établie fin des 1989, donc dans le parc industriel de Bécancour, en construction, donc vraiment leur zone d'action est plus large que Bécancour. C'est sûr que récemment, il y a beaucoup d'activités pour eux à Bécancour, mais c'est une entreprise qui fait des travaux quand même pas mal en région, mais qui se promène un peu partout au Québec aussi. Donc, construction, fait que, excavation, coffrage, bétonnage, bâtiment ou des travaux industriels. Fait que c'est pas mal leur créneau qu'ils ont depuis leur fondation.
Une entreprise que je découvre ce midi, c'est Duratec Équipement.
Oui, oui. Donc, 2012, celle-là cette entreprise-là a été fondée en 2012. Donc, expert en solutions de broyage puis de résidus forestiers. Donc, vraiment, c'est de la machinerie lourde puis des équipements forestiers qui sont ajustés, adaptés, développés. Donc, que ce soit pour des pelles, bulldozers, des skids, des loadeurs, des tracteurs. Fait que, donc, c'est vraiment un marché spécialisé. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas nécessairement de lien direct avec les entreprises du parc, mais c'est quand même une entreprise qui est établie dans le parc et puis qui crée des retombées économiques.
Une autre entreprise qui est là depuis la fin des années 80, Hydrexcel.
Oui, Hydrexcel. Et puis, Selberry était voisin à l'époque, en 89. Donc, on partait dans les mêmes années, puis était voisin à ce moment-là. Là, la Vignoberry a déménagé depuis. Mais c'est vraiment des fabrications d'équipements sur mesure. Donc, Joachim, qui est assez connu dans la région. Et puis, c'est des services conception ingénierie, fabrication industrielle. Ils vont aller vers des systèmes de lavage, systèmes de manutention, des convoyeurs, métaux ouvrés. Donc, puis les secteurs sont assez diversifiés. Évidemment, ils ont des clients à Bécancour même, le secteur minier, manufacturier, secteur de l'énergie, forestier. Fait que le champ d'action est assez large pour Hydrexcel.
On se transporte justement du côté maritime cette fois-là avec même le Grand Nord, peut-être deux entreprises. Une première, Groupe des Gagnés, division Transarctique, c'est ça, bien ça.
Oui, donc peut-être pour, mettons, on va parler des Gagnés. Bon, on peut amener les deux, des Gagnés et Néas,
ouais,
parce qu'ils ont quand même des similitudes. C'est deux entreprises qui entre autres, ben, pour des Gagnés, ils ont une couverture plus large que le Cargo du Nord. Donc, ils ont beaucoup d'activités au Québec. La Côte-Nord est desservie par eux. Mais vraiment, ce qui se passe avec Bécancour, c'est le Cargo du Nord. Donc, puis David Rivet était venu de mémoire début décembre nous expliquer un peu la réalité. Donc, pour ce qui est de dégagner, ils ont leur propre navire. Et puis, c'est beaucoup l'industrie minière aussi. Donc, parce que Cargo du Nord, ça veut dire toutes les communautés non reliées. Et donc, il faut que les auditeurs s'imaginent que tout ce qui ne peut pas être atteint par rail ou par route, bon, ils ont besoin quand même d'équipements, que ce soit des denrées non périssables, des matériaux de construction, des véhicules, et puis les mines, ben, tout ce qu'ils ont besoin pour opérer les mines, donc les équipements et tout ça. Ça fait que ça part en grande partie par Bécancour. Ça fait que donc, Dégagné fait ce travail-là, ont leur propre bateau, donc ils ont vraiment les bateaux blanc avec une ligne avec une ligne jaune, là, donc sont assez distinctifs. Là, pour le moment que les gens sont sur le bord du fleuve, normalement, on les reconnaît assez bien, ces bateaux-là. Et puis Néas, eux autres aussi, ont leur navire. Donc Néas, c'est une entreprise du Québec, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a une participation des Inuits dans cette entreprise-là. Donc 50% des Inuits du Nunavik qui font partie de cette entreprise-là aussi. Et donc, c'est vraiment beaucoup communautés non reliées. Et puis, leur réalité, les deux, puis David le décrivait bien quand il est venu, mais peut-être juste pour le résumer, le rappeler pour les auditeurs, mais quand les bateaux arrivent dans le nord, il n'y a pas de port. Mm-hmm. Et donc, le bateau se met à l'ancre débarquent la barge, débarquent le bateau rameur, débarquent la chargeuse et vont déposer ça sur la plage alors qu'ils sont peut-être à 1 ou 2 kilomètres de la plage. Fait que les bateaux qui partent de Bécancour vivent toute une aventure par la suite pour aller gérer le déchargement. Ils font plusieurs arrêts, donc on comprend que l'ordre de chargement doit être méticuleusement respecté pour être capable de décharger en fonction de la bonne séquence.
Et Neas, qui est à Bécancour seulement depuis 5 ans, donc depuis 2020.
Oui, c'est créé depuis quand même plus longtemps que ça. Mais
présent à Bécancour.
Oui, ils ont fait l'acquisition d'un bâtiment sur la rue Vont-Trudeau. C'est ça, moi, je suis arrivé en 2022, puis ça s'est fait l'année. La première année d'opération était 2021. donc, ça a du sens, là, 2020, qu'ils ont racheté leur bâtiment.
Des excavations marchands et fils.
Oui, donc une entreprise un peu comme Bouvet dans le domaine de la construction, mais plus excavation, donc un plan de béton aussi qu'ils ont développé récemment sur la rue Jean-Demers avec toute l'arrivée de des constructions multiples qu'il y a. Bon, ils ont vu une opportunité de développer ce créneau-là et c'est ce qu'ils ont fait.
Location d'outils simplex que plusieurs connaissent.
Oui, c'est ça. Ils sont aussi dans le parc et puis évidemment avaient... pas beaucoup d'activités jusqu'à il y a quelques années. Donc, comme on dit en québécois, c'était un peu mollo, mais là, c'est plus mollo. Là, donc, on voit dans leur cours qu'il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements qui roulent. Et puis, parce que les chantiers de construction, hein, on n'ajoute pas une grue ou un élévateur pour un chantier. Donc, on loue tout ça. La plupart, les entreprises, parfois, en ont quelques-uns, mais vont aller en location pour les surplus d'équipements qu'ils ont besoin. Donc, c'est pour ça que la location de ce genre d'équipement-là est quand même un besoin quand même important quand on est en construction.
Belle occasion d'affaires.
Oui.
Metaltech Laser.
Oui, donc coupe laser haute définition, donc année de fondation 2007, clientèle variée au-delà du parc de Bécancour, évidemment.
Métaux DMS, année de fondation 2000.
Oui, donc ça a commencé à Saint-Wenceslas, mais c'est arrivé à Bécancour en 2000. Donc, encore là, ça se rapporte beaucoup usinage, soudure, pliage, de la réparation. Ça fait que donc, c'est dans le domaine surtout de la mécanique, cette entreprise-là. Évidemment, probablement des clients dans le parc, mais assurément des clients à l'extérieur du parc aussi.
Peut-être rapidement décliner multipièces blanchettes.
Oui, donc, année de fondation 95 et puis ciment réfractaire, donc les fameuses cuves à l'ABI. Il y a plein d'activités en sous-traitance qu'ils font pour l'ABI, mais ailleurs aussi au Québec. Donc, du précoulant en béton réfractaire, l'installation en chantier de produits réfractaires. Donc, ils sont quand même assez présents dans le parc depuis un bon bout de temps, là, juste en face d'Hydrexcel.
On peut nommer N. Simard et Frères aussi rapidement.
Oui, un transporteur en vrac et conteneur.
QSL?
Oui, QSL, c'est un joueur important dans le parc, au port à Bécancour. C'est beaucoup eux qui font le travail d'arrimage. Donc, ils sont là depuis quand même très, très longtemps. Et puis, vraiment, toute la logistique, là, tout ce qui se passe, tu sais, comme je parlais de Neas et de Dégagner. Donc, c'est QSL qui majoritairement... s'occupe de charger ces navires-là puis de faire tout le travail pour le cargo du Nord, mais aussi pour la plupart des entreprises du parc. Exemple, le sel qui peut arriver ou les matières premières de Ferroglobe. C'est principalement QSL qui fait cette manutention-là. Fait que donc, ils sont là depuis très, très longtemps installés dans le parc au port.
Et Servitan, quelques secondes seulement pour en parler.
Oui, donc c'est du vrac liquide pour eux. Donc vraiment, Servitan ont des réservoirs au port. Et puis, il faut voir que le vrac liquide qui transporte par bateau, c'est du vrac liquide de moins sur les routes ou sur les rails. Et il y a quand même souvent des produits chimiques et c'est prouvé que c'est plus sécuritaire d'utiliser les voies maritimes que le rail et la route. Donc, c'est quand même toujours intéressant. Il y a un côté économique que c'est moins coûteux pour les entreprises, mais il y a un côté aussi sécurité puis environnement que c'est quand même une meilleure approche d'utiliser le maritime. Donc, ils sont là depuis quand même vraiment un bon bout de temps et ils sont très bien positionnés pour le vrac liquide associé à la filière batterie.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon rapide. Avant de se laisser, Donald, il me reste une minute seulement. Rapidement, oui. Participation à un panel lors de du sommet sur les batteries qui s'en vient cette semaine.
Oui, sommet sur les batteries à Shawinigan. Donc, je vais être sur un panel mercredi matin. Et puis, Karim Zaghib, qui est venu ici avant Noël, vient avec une délégation algérienne ce jeudi. Et on accueille des participants du sommet de la batterie vendredi. Wow. Pour une tournée du parc. Donc, il y aura quand même beaucoup d'activités. Marie-Noëlle et moi, on va être occupés cette semaine.
Grosse semaine. Donc, merci beaucoup, Donald, encore pour ce tour d'horizon. Et on vous invite la semaine prochaine à être avec nous pour le Parc en 30 minutes. On recevra le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Blanchette. Alors, il y aura tout le lien avec la vallée de la transition énergétique, tout ce qui se passe au niveau du savoir et la connexion avec le parc industriel. Alors, on vous invite à être des nôtres lundi prochain pour le Parc en 30 minutes. Et on vous invite encore à poser vos questions en allant sur le site via.fm ou en allant sur le téléphone ou au téléphone 819-519-9050. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.